Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Deux invités aujourd'hui autour de la table pour deux portraits croisés autour d'un grand classique de la cuisine française, le pain et le fromage.
La surface du pain est merveilleuse, d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne. Comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la cordillère des Andes.
Le fromage, ça sent bon la France.
J'adore le fromage.
J'ai toujours aimé ça.
Bien sûr que j'aime le fromage.
Bien fait.
Pas trop crémeux.
Les pâtes cuites.
Crémeux à cœur.
Du caractère.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dur dans le milieu. Quoi.
Elle a eu pitié de moi, elle m'a donné un bout de chocolat et elle m'a donné des... un beau morceau de pain, un vrai casse-croûte. Et je l'ai trouvé tellement bon que ça m'a... C'est peut-être le meilleur pain que j'ai jamais mangé de ma vie.
Le jeu est simple, il faut manger le plus possible de camembert en un quart d'heure. Et pour seule arme, dans ce combat, une bouteille de cidre.
Mais je crois que les Français, depuis toujours, insistaient peut-être davantage sur l'exigence qualitative. Il faut que ça soit bon à manger, il faut que ça soit bon à penser avant d'être bon à manger. Et c'est cette espèce de dualisme psychologique et physiologique, ça c'est peut-être là le cœur donc de l'engagement français avec le pain.
De Francis Ponge à l'historien du pain Stephen Kaplan, en passant par la voix d'un GI, un ancien GI américain qui remerciait une mangeuse française pour le pain qu'elle lui avait offert. Ce montage sonore était réalisé par Jun Loper. Lui a remporté le prix du Festival Gourmand de Périgueux en décembre 2022 avec son encyclopédie joyeuse et gourmande du fromage. Elle tient l'entreprise familiale depuis 20 ans. Tous les deux ont choisi le travail de la main. Après avoir fait des études supérieures, tous les deux mettent en valeur la tradition paysanne artisanale plutôt que l'industrie. Tous les deux se sont installés à la ville plutôt qu'à la campagne. Mais tous les deux veillent à ce que les bonnes choses parviennent à tout un chacun. Pierre Coulon et Apollonia Poilane sont nos deux invités. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Pierre Coulon, fromager fondateur de la Laiterie de Paris, installé dans le 18e et dans le 19e arrondissement de Paris. Oui. Lauréat donc du prix du livre en novembre 2022 au Festival de Périgueux pour votre livre chez First, Le bon savoir du fromage, qui se présente comme une encyclopédie joyeuse et gourmande de presque tout ce qu'on peut apprendre sur le fromage. Un livre qui regorge d'informations sur l'histoire du fromage, sur sa fabrication. Il y a des conseils pratiques, il y a des recettes et le tout est organisé très judicieusement par région. Apollonia Poilane, un nom familier aux oreilles des amateurs de bon pain. Vous êtes à la tête depuis 20 ans de la vénérable maison qui, elle, a 90 ans. Vous incarnez la troisième génération de boulangers. Vous êtes l'autrice, vous aussi, de plusieurs livres, dont le dernier s'intitule « Poilane, des grains au pain ». Paru à la Fabrique de l'Épure en 2020, un livre qui donne envie de croquer à chaque page dedans, dans lequel vous racontez l'histoire de votre famille, la fabrication du pain, l'importance des céréales à la base du pain, les recettes aussi, et le tout est organisé en suivant une journée, petit déjeuner, goûter et dîner. C'est important ce que disait l'historien du pain pour vous, Stephen Kaplan, pour vous, Apollonia Poilane, dans le montage qu'on a entendu au début, c'est-à-dire les Français ont un rapport double au pain, à la fois psychologique et physiologique. Le bon pain ne se mange pas seulement, il se pense avant de se manger.
Oui, parce que c'est un produit, c'est une nourriture qui est porteuse de valeur au-delà de son intérêt premier, c'est-à-dire nous sustenter. Et d'ailleurs, je pense qu'un pain qui n'est pas d'une bonne qualité ne peut pas être, ne peut pas remplir cette fonction-là. Mais autrement dit, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante.
Absolument. Alors racontez-nous d'où vous venez tous les deux, quel a été votre parcours. Pierre Coulon, au départ, vous êtes éleveur, berger, on peut dire.
Chevrier.
Chevrier,
ouais.
plus précisément.
J'ai jamais aimé les brebis, donc moi j'ai toujours été team chèvre. Ouais.
Alors plutôt chevrier, donc, d'ailleurs il y a beaucoup de chèvres dans la Laiterie de Paris. Comment ouais. est né le projet de fromagerie urbaine?
Alors, moi j'ai été producteur, ensuite j'ai pas mal voyagé, donc parce qu'une partie de mon métier c'est aussi de donner des conseils en France et à l'international dans des boutiques et dans des fromageries. Et en fait, j'ai voulu faire vraiment un retour en ville après 6 ans de vie à la campagne, qui était quand même un peu compliqué hein, en tant que producteur, avec beaucoup d'astreintes, très peu de revenus, des difficultés financières. Donc, une vie de paysan, quoi, mais aussi beaucoup de convivialité, beaucoup de bonheur, hein, je vais pas vendre du malheur. Et j'ai eu envie, à un moment, de retrouver la ville, parce que moi, je suis citadin, et j'avais vu ça, des histoires de fromagerie dans les villes, donc il n'y en avait pas encore en France, à l'époque. Et du coup, ça a été le pari un peu fou de débarquer à Paris avec ce projet-là. J'ai mis 2 ans après mon arrivée à Paris avant d'ouvrir la laiterie de Paris dans la Goutte d'Or, la première.
Pourquoi ça s'appelle la laiterie et pas la fromagerie de Paris?
Ah bah alors ça c'est une histoire, c'est que pour moi ça devait être la fromagerie de Paris parce que je suis fromager. Dans les villes on trouve des crémiers fromagers, donc c'est un beau métier mais c'est pas le même, même si nous on fait les deux. Mais la fromagerie de Paris c'était une boutique qui existait déjà. Et du coup moi j'ai fait le choix de laiterie aussi parce que je commençais mes recherches à l'époque et que j'avais vu qu'il y avait ces fameuses laiteries autrefois qui livraient le lait aux Parisiens avant qu'il y ait une ordonnance d'interdiction de vente de lait cru en vrac. Mais pour moi la laiterie c'est quand même l'endroit où il y a un tank dans une ferme, c'était pas du tout une fromagerie. Et il y avait des laiteries, on entendait parler de la laiterie de Marie-Antoinette, de tout ça, donc il y avait bien ces pièces qui existaient. Et alors c'est rigolo parce qu'on a vachement de gens maintenant qui se lancent et qui font un peu comme nous du fromage dans les villes et qui ont repris ce mot laiterie, mais c'est un concept qui est venu un peu comme ça en fait.
Donc il y a une boutique et une arrière-boutique où on fabrique des fromages.
Exactement. Donc il y a une boutique où on vend nos produits, mais pas que, hein, parce que moi je suis amoureux des fromages de France et d'ailleurs. Et effectivement, derrière il y a un atelier. Donc dans le 18e, on est spécialisé sur les fromages au lait cru, de vache, de chèvre. Et dans le 19e, c'est un atelier autour des yaourts et aussi des pâtes filées, parce qu'on fait du halloum, qui est notre version du halloumi.
On vous dit engagé, défenseur des bons produits. Quelles sont vos exigences, Pierre Coulon?
De rien lâcher. Donc de rien lâcher sur les matières premières, leur origine, de bien les payer aussi. Également, de rien lâcher sur les ingrédients. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a toujours agacé dans la restauration. J'ai passé un CAP cuisine pendant le confinement parce que je m'ennuyais. Et c'est vrai que de découvrir l'aspect de la cuisine, pour moi, on peut faire des bonnes choses qu'avec des bons ingrédients. Donc, on fait un maximum de choses nous-mêmes. On n'achète pas nos confitures, on les fait. Donc, c'est-à-dire qu'on épluche des fruits frais. Ça me rappelle quand j'étais au Liban, j'avais été voir quelqu'un qui faisait de la glace et j'étais arrivé dans l'endroit où il faisait de la glace. Il y avait toute la famille qui était en train de peler des tonnes de citrons. C'est pareil chez nous, quoi. Et c'est pour ça que les choses, elles sont bonnes. On les fait nous-mêmes.
Alors, je disais que vous êtes citadin, redevenu, vous nous dites, citadin. Et en même temps, vous venez d'acquérir, me semble-t-il, une fabrique de camembert près du village de Camembert. Alors, parce qu'il y a quand même un village qui s'appelle Camembert dans la Normandie.
Ouais, dans l'Orne. On peut plutôt parler d'une grosse ruine. Hein. Une fabrique de Camembert, d'accord, ça fait ambitieux.
Donc, c'est une petite
maison normande dans laquelle il pleut quand il pleut trop, où il y avait effectivement une vieille fromagerie qu'on a réhabilitée depuis maintenant un an. Donc, qui est sur la commune de Camembert. On est un peu caché.
Le Camembert de Normandie, c'est une AOP?
C'est une AOP, ouais.
Camembert, ça veut dire quoi, Normandie. AOP?
Ça veut dire que c'est réglementé, que c'est au lait cru, que c'est réglementé sur l'origine des laits. Alors nous, on va un peu plus loin parce que on est avec un éleveur qui a 100% de vaches normandes, alors que l'appellation n'impose que 50%. En termes de fabrication, c'est pas la même fabrication qu'un camembert industriel. Elle est 10 fois plus longue. Il est plus vieux aussi à la vente, hein, parce qu'il part à 21 jours de la zone. Donc il y a toute une série de règles qui font que c'est bien, c'est le camembert originel, quoi.
Le camembert, c'est le fromage français par excellence, Pierre Coulon?
C'est le deuxième. En fait, le plus produit et le plus mangé, c'est l'emmental. Fameux râpé. Et donc, camembert vient en deuxième position. Mais sur les 60 000 tonnes de camembert fabriqués, il n'y en a que 5 000 d'appellations au lait cru. Donc, le reste, ça reste du camembert tout venant industriel.
C'est intéressant ce que vous dites par rapport justement à AOP et aux bagarres. Hein, il y en a régulièrement pour savoir si on doit le manger cru ou pasteurisé. Parce que dans votre livre, justement, vous donnez tout un tas de conseils pour savoir comment on lit les étiquettes avec justement AOP, label rouge, bio, IGP. C'est vrai qu'en tant que consommateur, souvent, on s'y perd.
On s'y perd et ça ne veut pas toujours dire qu'on a des cahiers des charges très restrictifs derrière tout ça. Il y a des choses qui sont très légères. Hein. Donc c'est vrai que ça devient un métier de consommer aujourd'hui, c'est ça qui est compliqué, c'est dur de faire confiance quand même à des étiquettes.
Apollonia Poilane, alors vous, c'est une longue histoire hein, à la tête de la famille, de l'entreprise familiale Poilane, une famille de longue date de boulanger, puisque à l'origine c'est votre grand-père Pierre qui a fondé la maison Poilane en 1932. C'était déjà rue du Cherche-Midi à Paris et vous êtes encore dans cette boutique dans le 6e arrondissement de Paris. Votre père a succédé à son propre père au début des années 70 et puis il est d'une petite, toute petite boulangerie de quartier. Il en a fait une entreprise à la renommée internationale. Et vous, vous avez repris les rênes de la maison en 2002 à la suite du drame qui a touché vos parents. Vous avez 18 ans. Mais vous vouliez faire de la boulangerie votre métier avant. C'est-à-dire que ça ne vous est pas complètement tombé dessus. Heureusement, vous avez pu reprendre la maison en ayant déjà commencé votre apprentissage dès l'âge de 16 ans. C'est une très forte envie qui vous a prise tôt de vouloir faire de la boulangerie votre métier.
Tout à fait. Et lorsqu'à 18 ans, je prends la suite de mes parents, je travaillais littéralement au fournil. J'avais commencé mon apprentissage avec ma maman, qui était venue me voir juste avant les ponts du mois de mai, et qui me dit: Apenia, écoute, si tu es sérieuse à l'idée de reprendre un jour la boulangerie, il faut que tu commences à apprendre ton métier. C'est comme ça que pendant les ponts du mois de mai, j'ai passé quelques jours ici, quelques jours là. Et puis, ça a été vraiment le début de mon apprentissage en boulangerie. J'ai eu mon bac en juin 2002 et j'ai continué cet apprentissage pendant une année off avant d'aller à l'université. Et début novembre 2002, ben, au lieu de descendre au fournil comme je le faisais tous les matins, je suis montée dans le bureau de mon papa pour travailler avec son équipe à la suite donc d'un événement qui arrivait beaucoup plus tôt que prévu, l'évidence de prendre la suite puisque je m'y étais préparée et que j'avançais dans ce sens.
Et ça fait 20 ans que les
choses... Et ça fait 20 ans. Et surtout, 20 ans après, ce que je trouve génial, et c'est une partie de ma motivation à écrire le livre que j'ai publié il y a 2 ans maintenant, c'était de dire: j'aime mon métier, et ce qui est génial, c'est que 20 ans après, je l'aime toujours autant, pas forcément pour toutes les mêmes raisons. Certaines ont évolué, certaines que je redécouvre, et c'est aussi ce que je veux partager, et je pense qu'il y a... J'ai pas l'impression d'avoir fait la même chose pendant 20 ans. J'ai l'impression d'avoir endossé plein de métiers différents et d'avoir fait plein de choses très différentes. C'est vraiment une des richesses du pain.
Comment expliquez-vous, Apolonia Poilane, que tout le monde, alors je vais pas interroger tout le monde, mais enfin, vraiment quand même, c'est très très connu, que le pain Poilane soit aussi connu et aussi réputé.
Mon père, lorsqu'il prend la suite de mon... Mon père, lorsqu'il... Se retrouve à la tête de Poilane, mais même avant ça, lorsqu'il a 14 ans, que son père le force à travailler au fournil, il dit, mais il n'est pas sûr, il s'est retrouvé là, forcé par le choix paternel, et il s'est dit, mais en fait, mon métier, il y a plus que ça. Et évidemment, c'est une réflexion qui s'est faite dans le temps, mais à partir du moment où il y a eu cette bascule pour lui de se dire, mais en fait, mon métier est connecté avec tous les domaines de la connaissance et il est beau pour ça, il a eu une soif insatiable de vouloir le partager. Et je pense que c'est ça qui est à l'origine d'une compréhension de notre métier dans ma famille déjà, mais même au-delà de ça, d'un partage et de connexions qui se sont faites assez naturellement pour dire le pain, c'est incroyable.
Et le pain Poilane est particulièrement incroyable puisque c'est une miche à croûte épaisse, dorée, une mie légèrement très dense, hein, mais de saveur acidulée. Et il est fabriqué avec de la farine de blé broyée à la meule de pierre, du sel de mer et évidemment du levain. Hein. Je crois que le secret, c'est quand même le levain. Avec des farines qui sont issues de l'agriculture dite raisonnée et cuit au feu de bois, ouais, dans le fournil qui est en dessous, au sous-sol.
Du 8 rue du Cherche-Midi. Et je suis assez d'accord avec ce que Pierre disait tout à l'heure. La qualité des ingrédients initiales est quand même primordiale pour la qualité de ce que l'on veut faire derrière. Et puis après, il y a aussi conjugué à un savoir-faire. Là, on arrive à des belles choses.
Il y a un point commun, il y en a beaucoup entre vous deux, mais il y a un point commun notamment, c'est que vous vous êtes tous les deux installés, vous êtes installé, pardon, Pierre Coulon, dans un quartier populaire, même dans deux quartiers populaires de Paris, hein, la Goutte d'Or et le 19e arrondissement. Et vous, Apolonia Poilane, d'un endroit qui était plutôt un endroit bourgeois, dans le 6e arrondissement, vous avez essaimé dans tout Paris.
Aussi, on est voisins.
Vous êtes voisins dans le 19e, mais dans tout Paris, vous avez 5 boutiques dans Paris, mais aussi, vous avez cœur d'aller au plus près des gens, puisque votre pain est vendu dans les grandes surfaces, dans toute la France, et qu'on peut se faire livrer même au-delà de la France. Quelle était cette démarche, peut-être politique, ou militant, ou engagé, je ne sais pas comment le dire, Pierre Coulon, d'être à cet endroit-là, justement, d'aller chercher des gens qui n'achètent peut-être pas du fromage dans les fromageries habituellement?
C'est le facteur de beaucoup de choses. Alors, d'abord, moi, je ne viens pas d'un milieu de gens riches. Hein. Mes parents étaient aisés sur leur fin de leur carrière, mais quand on était petit, je viens d'un milieu qui était quand même peu populaire. Et du coup, j'ai jamais aimé... J'aime Paris, j'aime ses beaux quartiers, j'y ai travaillé, mais je voulais pas mettre mon énergie, c'est mon côté politique un peu et engagé, pour les gens qui ont de l'argent, en fait. Je me disais, il y a assez de beaux endroits dans Paris, et je me disais, ben moi, on doit avoir le point commun de faire des belles journées avec Apollonia, et moi, je me disais, ben, toute cette énergie et cette fatigue aussi, je veux pas qu'elle aille pour les bourgeois, en fait.
Très clairement. Pas que, en tout cas.
Pas que, non, clairement. Et donc, quand je suis arrivé à Paris, je suis arrivé dans la Goutte d'Or, et c'est aussi là où j'ai découvert Paris, et sa mixité, et son énergie, et du coup, ça a été une évidence pour moi de me mettre dans ce quartier.
Apollonia Polan.
Déjà, Saint-Germain-des-Prés, lorsque mon grand-père s'installe en 1932, c'est pas le quartier d'aujourd'hui. C'est un quartier qui est en cours de gentrification, un quartier d'artisans et d'artistes. Et au fond, aujourd'hui, et mon père a vraiment impulsé ça, il s'est dit, mais moi j'ai un pain qui est bon, qui se garde, et donc... Pourquoi pas le partager avec le plus grand nombre? Et l'idée là-dedans, c'est tout simplement de se dire que si la qualité du produit, en l'occurrence du pain, le permet, pourquoi ne pas aller le proposer dans toute l'île de France? Et c'est vrai que Paris, c'est vraiment notre région pour ma maison. Et au-delà de ça, en France, de pouvoir distribuer notre pain pour qu'il soit accessible dans les lieux où vous avez l'habitude de consommer parce que vous avez envie de trouver des bons ingrédients.
J'aime le fromage qui pue. Qui pue. J'aime le fromage qui pue. Ok, that's enough. That's all. That's the best I can do.
Je ne sais pas si le pain, en tous les cas, de Poilane ne pue absolument pas. Ils sont même délicieusement bons. Mais je crois que vous pouvez, Apollonia Poilane, manger votre pain avec du fromage qui pue. Vous aimez beaucoup les fromages forts.
J'aime beaucoup les fromages forts. Et c'est vrai que contrebalancer, ou en tout cas équilibrer, pardon, un fromage bien affiné avec un morceau de pain, bah, je trouve qu'il y a un bon équilibre qui se fait assez naturellement.
Bah, clairement, parce que hier, alors moi je suis phasique hein, sur mes consommations de fromage, parce que quand on a une tonne de fromage à disposition, déjà on n'en mange pas tout le temps. Et donc en ce moment j'ai une phase chevrotin, c'est le début de la saison hein, sur le chevrotin. Et hier, c'est ce qu'on a mangé, pain poilane au raisin avec un chevrotin hyper crémeux qui tabassait. Et effectivement, les accords pain et fromage, c'est des merveilles. Après, le pain, c'est un univers. Le pain au levain, c'est un univers aussi, parce que on va aussi avoir des petits traits un peu communs, des fois des petites pointes d'acidité, des choses comme ça. Et fromage sans pain, c'est impossible, clairement.
Ah bon ? C'est impossible ?
Je
me demandais si c'était pas parfois un sacrilège de mettre du pain avec du fromage, certains fromage se mangerait sans pain?
Alors si, on pourrait, mais c'est... Moi j'aime les pains assez bruts. Je me verrais mal faire un plateau de fromage sans pain, hein, clairement. On peut le picorer, le fromage, on est d'accord. On peut le mettre de manière très apéritive, mais il faut quand même toujours qu'il y ait du pain à côté.
Il y a une miche de pain qui est vraiment le pain traditionnel hein, de chez Poilane, qui est une très grosse miche, tellement bonne. Bon, et il y a une nouveauté depuis 6-7 ans, à Apollonia Poilane, c'est le pain au maïs.
Le pain même de maïs.
Le pain de maïs.
Oui, oui. En fait, je conçois vraiment mon métier comme ce carrefour, cette rencontre entre les céréales et la fermentation. Et c'est un des points communs que l'on a avec Pierre, c'est cet univers voilà, des fermentations. On est des copains de la fermentation. Le mot copain qui étymologiquement veut dire la personne avec laquelle on partage le pain. Et à partir de ce regard métier qui est empreint d'une législation tout à fait française, il y a une différence entre le pain de seigle et le pain au seigle. Lorsqu'en itérant sur mon métier, sur ce qui fait ses spécificités, je me suis dit, mais au fond, mon métier, c'est je prends des céréales Et avec mon savoir-faire, la magie de la fermentation, je le transforme en ce produit qui est un produit essentiel, un produit premier. Et de là, eh bien, une conception de mon métier où j'aime que chacun de mes pains soit vraiment 100% de la céréale. C'est un choix, mais c'est
deux. C'est très rare un pain 100% maïs, en fait. Souvent, alors, il y a un peu de farine de maïs
dans
le mélange.
Ouais. Mais exactement, Pierre. Et en réalité, le point de départ du pain de maïs, c'était, je voyais dans la cantine à l'université aux États-Unis, je suis franco-américaine, j'ai fait mes études supérieures aux États-Unis, un cornbread. Et un cornbread, dans ma tête, je le traduisais comme un pain de maïs. Mais un pain de maïs voulait dire un pain, dans ma tête, 100% farine de maïs, comme mon pain de seigle. Et de là, l'idée de regarder les recettes de cornbread, que je trouvais tout à fait décevantes, parce qu'à chaque fois, elles avaient jusqu'à 50% de farine de blé dedans.
Ouais.
Parce que le maïs n'a pas de gluten.
Ouais, voilà.
Et donc, l'idée et le défi que je me suis lancé à la fin de mes études universitaires, et on a mis une dizaine d'années pour trouver l'équilibre, pour avoir...
10 ans pour fabriquer un pain. Hein.
Ouais, ouais. La simplicité des ingrédients, tout en respectant ce cahier des charges, 100% de farine de maïs.
Et alors, avec quel fromage vous mangeriez, Pierre Coulon, un pain de maïs?
Alors, pour moi, c'est des pains qui ont un peu de sucrosité, non?
Il peut en avoir un tout petit peu.
Ouais. Alors, moi, le sucre, ça appelle tout de suite toutes les familles de fromages un peu puissantes. Donc, tout ce qui est bleu, tout ce qui est pâte molle à croûte lavée, les fromages qui vont être orange, assez aromatiques. Après, je pense que ça doit super bien passer avec du chèvre aussi.
Évidemment, ouais, puisque vous aimez le chèvre.
Ah, oui, moi, je suis un fan de chèvre.
Vous disiez, à propos du chevrotin que vous mangez en ce moment, vous disiez c'est le début de la saison. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des fromages de saison?
Oui, clairement, clairement. Alors, il y a les saisons de production, il y a les saisons de consommation qui des fois sont déconnectées. Par exemple, en ce moment, ils se fabriquent plein de mozzarella en Italie et personne n'en mange en France. Hein, alors que si finalement, il y a une saison où elle est intéressante, c'est en hiver, quoi.
Dommage, on la mange surtout l'été.
Bah, au moins, les buffalones, en ce moment, elles sont en pâture. Alors que l'été, elles sont à manger de l'ensilage sous des hangars par 35 degrés. Donc, en termes de qualité de lait, même si c'est un fromage filé, c'est pas la même chose. Il y a le chèvre, où on a un animal qui est saisonné, qui normalement fait pas de lait... fin décembre à fin janvier, là c'est le début des mises bas, parce que la chèvre en fait naturellement est en chaleur en automne, puis après n'a plus de cycle, donc ne peut plus être mise à la reproduction. Donc alors après on a des éleveurs qui travaillent à l'année, comme c'est le cas de mon éleveuse, mais en bio, et ça c'est un label que je rajoute moi sur les fromages de chèvre en hiver, parce que pour faire du lait de chèvre en hiver, la technique la plus utilisée, c'est un traitement hormonal qui est quand même assez odieux, quoi. Alors que nous, Christine, ce qu'elle fait, c'est que les chèvres font des petits une fois dans leur carrière. Et c'est vrai que les chèvres ont cette capacité à tenir en lait. Ça s'appelle la lactation longue. Il y a une chouette émission sur France Culture là-dessus.
ALSD, qui était formidable.
Voilà, ouais, et qui explique ce principe. Ça fait aussi moins de petits à naître.
Oui, c'est peut-être un pied sur terre.
Moins les animaux. Et donc, du coup, nous, on a du fromage de chèvre en hiver, moins, malgré tout. Et après, c'est sur le chèvre qu'il y a une vraie saison.
Alors, pour remplacer les chèvres, quand on ne peut pas manger les chèvres frais en hiver ou qu'on s'interdit d'en manger du non bio, disons, on peut se tourner vers quoi? Les brebis, les pérailles?
Alors, les brebis, elles ne sont pas saisonnées, elles peuvent faire du lait toute l'année. Les vaches, pareil. Hein, donc, on peut totalement changer d'espèce, hein, sans problème.
En ce moment, qu'est-ce que vous vendez particulièrement dans votre maison de la laiterie de Paris?
J'ai une passion pour l'abondance. Mais ça, c'est aussi parce que j'en ai fabriqué en alpage. Et c'est un fromage qui est capricieux. Chaque meule est différente. Il y a un côté un peu mordant à la dégustation que j'adore. Et surtout, à la fonte, c'est un de mes préférés. Alors,
Puis c'est un peu moins cher que le comté.
Oui, et puis c'est une des rares offres en pâte pressée cuite qu'on peut trouver fermière. Donc, on l'oublie, l'abondance, c'est une petite appellation. Et je passe ma vie à faire des bertoux en ce moment et à parler bertoux. Donc, du coup, je pense que le bertoux est en train de huper un peu.
C'est quoi le bertoux? Parce que vous nous avez offert la recette du bertoux qu'on a mis sur notre page internet.
C'est le plat le plus simple du monde. C'est un plat de feignant, c'est un plat du lundi soir. C'est des tranches d'abondance coupées finement, un peu d'ail, un peu de madère et un peu de muscade. Et c'est passé au four. Et alors, ça, avec du pain... Ça fait le repas, quoi. Une salade verte, un quart d'heure au four, quoi. Et
c'est un peu ton Welsh, quoi,
ouais,
d'une
voilà.
certaine façon.
C'est un genre de Welsh, mais moi, j'ai la muscade, je la redécouvre à chaque fois que j'en mets dans ce plat-là, quoi.
Mais vous, de toute façon, Pierre Coulon, dans votre laiterie de Paris, non seulement vous vendez des fromages que vous fabriquez dans l'arrière-boutique, non seulement vous vendez des fromages que vous avez sélectionnés un peu partout en France, un tout petit peu en dehors de la France, mais c'est quand même de plus en plus cher.
On lève le pied, ouais, un peu, hein, c'est un peu compliqué sur les prix d'achat en ce moment.
Mais en plus, vous agrémentez parfois les fromages que vous vendez. Vous mettez de l'huile d'olive. En ce moment, il y a, je crois, un brie date amande.
C'est un grand classique, celui-là. Et des belles dates, mais du bio, c'est des bonbons, quoi.
Vous mettez de l'ail, vous mettez du poivre.
On a toujours
des
joué,
noisettes, des fruits secs.
On a toujours joué avec les fromages et fait des préparations fromagères aussi, parce qu'on a une clientèle assez apéritive, finalement. Le fromage, ça peut se manger en plateau à la fin d'un repas, mais je pense qu'il y a aussi un effet un peu générationnel. Moi, je suis plus habitué aujourd'hui à une table sur laquelle on dépose plein de choses, en fait, quand je reçois, plutôt que de faire un entrée plat dessert. Donc, du coup, nos clients ont un peu pris l'habitude, puis débarquent chaque semaine en disant « qu'est-ce que vous avez fait de nouveau ?» Alors, du coup, ça nous force à faire des choses nouvelles toutes les semaines de saison. Et là, il y a des choses qui vont arriver. Je pense que d'ici 15 jours, on aura les premiers ailes des ours de Normandie. Ça, c'est des choses qui sont hyper inspirantes, hein. Donc, on va faire des pestos, on va affiner des fromages avec, on a plein de choses à faire.
Quels sont les fromages les plus abordables si on doit faire des économies?
Ah, grosse question. Alors d'abord, on ne doit pas en manger.
Question d'actualité.
Ouais, mais alors, le premier des trucs, il y a une phrase de Perico Legas que j'aimais bien, c'était 20 euros, ça peut être 6 fromages à 3 euros, comme ça peut être 3 fromages à 6 euros. Et en fait, on n'encourage pas les mêmes choses quand on achète des fromages en grande distribution, pasteurisés, fabriqués par les géants laitiers. Donc moi, la consommation fromagère poussée et quotidienne, je ne suis pas spécialement pour, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas faire beaucoup et pour tout le monde. Donc du coup, il y a des fromages qui sont un poil moins chers. Par exemple, sur les persillés, il y a le bleu d'Auvergne, sur les
comtés, plutôt que le roquefort.
Voilà, il y a les pâtes jeunes, les chèvres frais sont un peu moins chers que les fromages affinés. Et puis, réfléchir à ses consommations fromagères, manger un poil moins et un poil mieux.
Ce qui est extraordinaire avec les pains, notamment les pains poilanes, Apollonia poilane, c'est qu'ils se gardent. La miche de pain poilane se conserve au moins 4 ou 5 jours.
Elle se cuisine.
Bonne, elle se cuisine, il se grille. Vous ne laissez pas perdre une seule miette de votre pain.
Ça, c'est vrai. Et de considérer qu'un pain de bonne qualité va nous nourrir et donc nous rassasier, parce qu'il va y avoir plus de sucre lent dedans, donc on ne va pas avoir la même envie, on ne va pas être porté sur la quantité, mais plutôt sur la qualité. Mais effectivement, après, de considérer que le pain, ce n'est pas seulement une nourriture, mais c'est aussi un ingrédient.
Eh bien, merci à tous les deux, Apollonia Poilane et Pierre Coulon, d'être venus nous parler de votre pain et de votre fromage. Vous nous avez aussi offert, Apollonia, une recette pour la page internet de l'émission, la recette du crumble de légumes d'hiver aux agrumes et miettes de pain. Nous parlions des miettes, justement, qui est page 166 de votre livre. Les adresses et la laiterie de Paris, 74 rue des Poissonniers dans le 18e et 125 rue de Crimée. Poilane, c'est 5 adresses à Paris, mais vous livrez dans toute la France et même à l'international. Pour tout le monde, le bon savoir du fromage aux éditions First, Poilane des grains au pain à la fabrique de l'épure. Et j'ajoute 2 revues qui sont dignes d'intérêt, même si elles coûtent un peu cher. Hein. C'est 18 euros pour l'une et 25 euros pour l'autre. La revue L'Alpe, revue trimestrielle, disponible en kiosque, en librairie, sur le site internet l'alpe.com et par abonnement. Le numéro en cours est consacré au pain, avec un dossier sur le seigle, un paysage du pain dans la France d'aujourd'hui, une histoire des fourniers, un conte d'Alphonse Daudet sur un meunier et un entretien avec l'incontournable historien du pain Steven Kaplan. Je vous l'offre, Apollonia, j'aurais pu croiser, mais bon. Et la deuxième, c'est la revue Cul de Poule, dont le numéro 1 est trouvable sur le site Cul de Poule avec la liste des points de vente. À Paris, c'est la librairie gourmande de l'incontournable Déborah Dupont qui la vend. Cul de Poule, dont un numéro précédent est consacré aux fromagères.
Que j'ai déjà.
Que vous avez évidemment, Pierre Coulon.
Apollonia, il est trop bien.
Et donc, du coup, croisons.
Croisons, les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France. Avec l'équipe Siam Boutata à la préparation, June Lopère à la réalisation et notre technicien du jour, Olivier Arnay, nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.